L'écho de Pâques, une émission spéciale pour vivre un accompagnement spirituel chez soi en temps de confinement.
Très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, en ce lundi matin pour cette émission spéciale confinement d'une certaine manière que nous vous proposons l'écho de Pâques cette semaine. Nous allons être accompagnés par une nouvelle personnalité, entre guillemets, de la région, un nouveau profil, le frère Jean-Emmanuel de Hénat. Bonjour frère.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'accepter de passer la semaine avec nous par le truchement de médias interposés, puisqu'on est tous on va dire, contraints à cette réalité aujourd'hui. Pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même si vous intervenez de temps en temps à cette antenne et dans l'émission dont j'ai la responsabilité, entre autres Vivante Église, vous êtes enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales. Pardon, vous êtes d'abord carme, religieux carme et prêtre. Et puis vous êtes aussi enseignant donc à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, ainsi que dans sa faculté de théologie, et directeur d'un institut qui s'appelle l'Institut de spiritualité Jean de la Croix. Alors, comme pour chaque invité, on va commencer en ce lundi par faire connaissance avec vous. Demain, vous nous parlerez de Jésus, mercredi de la prière, jeudi de la pandémie et de son versant dramatique, et vendredi des signes d'espérance que vous voyez au milieu de ces temps si particuliers. Frère Jean-Emmanuel de Hénat, comme pour chaque invité, j'ai envie de vous demander d'où vous venez, à quoi ressemble votre famille, mais je vous laisse avoir la liberté peut-être de préciser d'autres choses qui nous disent un peu vos origines.
Oui, mais écoutez, c'est avec grande joie de passer cette semaine avec les auditeurs. Je suis donc d'origine espagnole et française. Mon père est espagnol et ma mère est française. Ils habitent toujours à Madrid, j'ai vécu 18 ans à Madrid, et puis ensuite je suis rentré chez les Carmes en France, dans le sud de la France, là où j'ai fait mon noviciat, puis j'ai fait à Montpellier, puis j'ai fait mes études à Toulouse, ensuite je suis parti en Suisse, j'ai vécu 12 ans, puis à Rome, puis de nouveau en Suisse, puis à Jérusalem, puis au Sénégal, puis vous voyez, j'ai un parcours assez comme ça éclectique, j'ai vécu dans 6 pays différents, et donc mon origine est double, puisque j'ai une double culture, une double origine, espagnole et française, ce qui me marque assez profondément.
À quoi ressemblait votre famille, ou à quoi ressemble votre famille, Jean-Emmanuel Denat? Est-ce que vous étiez dans un milieu religieux, un milieu intellectuel, pas intellectuel? Quel était un peu le profil de votre vie familiale, en dehors du fait qu'elle soit comme ça franco-espagnole?
Alors, c'est assez simple. Une chose, évidemment, qui m'a marqué, qui explique mon parcours ensuite, c'est que mes deux parents sont enseignants. Alors, enseignants d'une manière très différente, puisque mon père était professeur de dessin, mais plutôt de dessin technique. Il a fait les beaux-arts et il enseignait, puisque c'est une matière qui s'enseigne au lycée. Donc, il était professeur au lycée de dessin technique, alors que ma mère était plutôt institutrice, puis au fur et à mesure de sa carrière, elle est devenue adjointe de la direction. Elle était plutôt dans des écoles françaises à Madrid. Voilà. Donc mes deux parents étant enseignants, en quelque sorte le virus, excusez le petit jeu de mots, le virus de l'enseignement était déjà bien présent dans ma famille.
Était-ce une famille?
Donc, d'un point de vue religieux, je dirais que ma mère est catholique pratiquante profondément, je crois, catholique pratiquante, c'est-à-dire avec pas une foi seulement sociologique, mais une foi vécue. Elle a été marquée par le renouveau charismatique. Alors que mon père, lui, pendant très longtemps, on pourrait dire qu'il a été un peu agnostique, c'est-à-dire pas... Il est catholique de tradition, comme tous les Espagnols. Il avait rien contre, mais rien pour non plus. Donc pendant très longtemps, il est resté assez indifférent à la question spirituelle. Il faisait ce qu'il avait à faire, sans trop de questions. Et puis c'est vers l'âge de 60 ans qu'il a vécu une forme de conversion, qui a un petit peu bouleversé son rapport à la foi, c'est-à-dire qu'il a fait une rencontre plus personnelle avec Dieu. Voilà ce que je peux dire de l'ambiance spirituelle chez moi.
Juste en deux mots, frère Jean-Emmanuel Denat, vous êtes fils unique, vous avez des frères et sœurs?
Non, nous sommes trois garçons.
D'accord, trois garçons.
Et puis on est comme l'oncle Donald. L'oncle Donald en Espagne, les trois enfants s'appellent Juan, Jorge et Jaime. Juanito, Jaimito et Jorgito. Donc en fait, ou je crois qu'en France, français, c'est Riri, Fifi, et puis je ne sais plus quoi. Donc on est trois garçons, et je suis l'aîné de ces trois.
Très bien. Frère Jean-Noël Delin, vous êtes donc religieux carme. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cet appel ? C'est une question que je pose donc à chacun des invités, puisqu'on a eu des personnes mariées, célibataires, pendant ce mois d'émission de l'Écho de Pâques. Comment vous nous parleriez de cet appel à la vie religieuse ? Comment vous nous présenteriez, et particulièrement cet ordre du Carmel ? Quelles sont les caractéristiques à l'intérieur des caractéristiques de l'appel ?
Oui, alors évidemment, c'est une question complexe. J'aurais envie de renvoyer les auditeurs au texte bien connu de la vocation de Samuel, du petit Samuel, hein, qui est dans le temple, qui dort, qui entend une voix qui l'appelle, et puis il comprend pas ce que c'est cette voix, il va auprès du prêtre qui est de service, tu m'as appelé, et puis l'autre lui dit, mais non, je t'ai pas appelé, va te recoucher, et puis ça recommence trois fois, et puis la troisième fois, le prêtre comprend que c'est Dieu qui est en train d'appeler ce jeune homme, ce jeune enfant, et donc il lui dit, parle, ton serviteur écoute. Ben, je crois que c'est un petit peu mon appel à la vie religieuse, à suivre le Christ, est très très ancienne, puisque pratiquement dès que j'ai eu l'âge de raison, je crois presque, j'ose dire ça, pour moi Jésus est un ami, est devenu un ami, et donc je l'ai entendu me dire très 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 jeune, peut-être, c'est difficile à dire évidemment ces âges-là, mais vers 6 ans peut-être, 6 ans, 7 ans, demande de le suivre, de devenir son ami. Évidemment, après il y a eu l'adolescence, bien sûr des tas de questions, et moi ce qui a fait que j'ai finalement choisi le Carmel, ou que j'ai été choisi, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est la prière silencieuse. Le fait qu'il y ait une heure de prière silencieuse le matin et une heure de prière silencieuse le soir. Et puis peut-être aussi, alors ça je l'ai compris au fur et à mesure, le fait qu'au Carmel on est frère ermite. C'est intéressant parce que a priori c'est pas la même chose. Un ermite c'est quelqu'un de seul, un frère c'est quelqu'un qui vit en communauté. Ben, nous sommes les frères ermites de Notre-Dame du Mont-Carmel. Nous sommes nés au Mont-Carmel en Terre Sainte. Et c'était des ermites qui se sont mis ensemble. Et ça me plaît beaucoup parce que ça veut dire qu'à la fois on est solitaire, on est une personne avec sa personnalité propre, et en même temps nous vivons en commun, nous partageons cette vie commune. Donc c'est un peu ça qui m'a beaucoup attiré au Carmel, avec aussi également l'aspect que nous sommes à la fois contemplatifs et à la fois actifs. On est d'abord dans la contemplation, mais nous sommes appelés à transmettre la vie contemplative, à donner goût aux gens de prier, le goût de l'intériorité. Voilà ce qui m'a beaucoup apporté au Carmel. Alors, particulièrement, bien sûr, à travers les saints du Carmel, concrètement pour moi, dans mon adolescence, puisque je vivais donc en Espagne, comme je vous l'ai dit.
Alors juste, je vous coupe, frère Jean-Manuel Denin, parce que je vois le temps qui passe.
Oui,
donc
oui,
on s'est dit qu'on allait parler aussi de vos engagements. Donc vous l'avez dit, vous êtes religieux contemplatif, donc apostolique, hein, c'est-à-dire que vous êtes à la fois ce frère ermite, vous vivez en communauté donc, de frères, et en même temps, donc, vous avez des apostolats. Parmi les apostolats, donc il y en a un, vous en avez d'autres, hein, on a dit que vous étiez donc enseignant à l'IERP et à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, directeur de l'Institut de spiritualité Jean de la Croix. Mais vous faites aussi beaucoup d'accompagnement spirituel et vous vouliez d'abord parler de l'accompagnement. Comment vous présenteriez cet engagement ? On a un pape qui n'a de cesse d'inviter à un plus grand discernement spirituel. Il dit souvent qu'il faut que l'Église grandisse dans sa capacité à discerner spirituellement, donc qu'il faut qu'on soit tous davantage accompagnés. Pourquoi est-ce que vous vouliez préciser et d'abord parler de cet engagement, frère Jean-Manuel Denin ?
Probablement parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur et celui où je m'adonne assez pas mal de temps, pas mal d'heures. Donc l'accompagnement spirituel, c'est simple, hein, je reçois des personnes grosso modo une fois par mois, pendant une heure, pour les accompagner sur leur chemin de vie spirituelle, leur vie avec Dieu, et donc faire le point, voilà, où ils en sont dans leur cheminement. Et c'est vrai que c'est à la fois un lieu de, parfois où on rencontre beaucoup de souffrance, mais aussi où il y a une grande confiance, où on parle de choses extrêmement profondes, intimes, et puis des grandes joies, de très grandes joies, lorsque les personnes traversent des étapes, hein, qu'on les voit mûrir. C'est absolument extraordinaire de voir des personnes mûrir. Donc ce que je voulais un petit peu partager, et puis ça rejoint l'un des évangiles que nous lisons pendant le temps de Pâques, vous avez probablement en tête, du moins je l'espère, Luc 24, c'est-à-dire le récit des pèlerins d'Emmaüs. Donc l'accompagnement spirituel est parfaitement résumé dans cet épisode. C'est-à-dire que Jésus se met au même pas que deux disciples, et même lorsque ces deux disciples sont tristes et s'éloignent de Jérusalem, il s'éloigne avec eux. Et l'accompagnement spirituel, c'est aussi accompagner les personnes là où ils en sont, là où elles en sont, y compris lorsqu'elles tournent le dos à la ville sainte, parce que c'est aussi ça, et c'est les écouter. De quoi parliez-vous en chemin ? Donc l'accompagnement spirituel, c'est beaucoup apprendre à écouter, mais pas une écoute neutre, elle n'est pas du tout neutre, c'est au contraire une écoute extrêmement attentive pour permettre à l'autre d'accéder à sa propre intériorité. Là, les pèlerins d'Emmaüs, souvenez-vous, ils sont déçus, ils avaient pensé une chose et puis ça s'est pas passé comme ils avaient pensé, ils sont en même temps il y a l'espoir, quelques femmes de notre groupe, donc il y a une petite lueur d'espoir, mais en même temps certains compagnons y sont allés puis ils l'ont pas trouvé, donc déception. Voilà, donc c'est un peu tout ce chemin-là d'accompagnement spirituel. Et puis progressivement, en tant qu'accompagnateur, comme Jésus, hein, dire réfléchissez autrement, hein, et relisons ensemble la parole de Dieu, relisons l'Écriture, et avec l'Écriture, éclairer les événements concrets de la personne que j'accompagne, qui est accompagnée. En fait, celui qui nous accompagne, c'est le Seigneur. L'accompagnement spirituel n'est pas une question de face à face, c'est plutôt un trio, hein. Nous essayons d'entendre ensemble la parole de Dieu, ce que le Seigneur, la volonté de Dieu, et j'essaye d'accompagner les gens pour discerner ce chemin, hein. Ce chemin jusqu'à le reconnaître, jusqu'à reconnaître la présence de Dieu dans leur vie et que les yeux s'ouvrent, et évidemment jusqu'au sacrement, d'abord la parole de Dieu et puis ensuite le sacrement, c'est-à-dire à la fraction du pain, là les yeux s'éclairent, mais il disparaît à leurs yeux parce qu'effectivement après, on est responsable de sa vie, et il faut repartir sur le chemin, repartir à Jérusalem, repartir dans la vie. Là, il faut rencontrer le reste de l'Église pour voir si ce qu'on a discerné est juste ou n'est pas juste, et est-ce que d'autres perçoivent la même chose.
Merci frère Jean-Emmanuel de Hénard. On va vous retrouver demain. Demain, vous allez nous raconter comment vous avez rencontré donc Jésus. Enfin, qui est cette personne pour vous? Vous entendre cela commencer bien jeune. Rendez-vous donc demain matin. Et je rappelle aux auditeurs qu'il y a une rediffusion le soir à 20h. À demain, frère Jean-Emmanuel.
À demain, Emmanuel.